Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous rappeler que jeudi prochain, il n'y aura pas de cours. Jeudi 31 octobre, il n'y aura pas de cours. La semaine prochaine, c'est une semaine de congé pour le Centre Sèvres. Par contre, dans 15 jours, il y aura cours, puisque dans 15 jours, ce ne sera ni le 1er novembre, ni le 11 novembre. On sera entre les deux. Et ce sera. Donc, il y aura prochain cours dans 15 jours. Voilà, nous, aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième partie de ce parcours, après avoir essayé d'identifier la problématique biblique du salut, nous allons nous engager dans un parcours qui permettra de découvrir comment il a été question du salut dans l'histoire de l'Église. Mais nous le ferons bien sûr en ayant présent à l'esprit ce que nous avons vu sur la Bible, et nous pourrons repérer à la fois ce qui est en continuité avec l'héritage biblique et ce qui éventuellement manifeste certaines dérives par rapport à cet héritage biblique. Donc cette deuxième partie comprendra elle-même plusieurs sections. Les deux premières portant sur la période des pères de l'Église, la période des 7 ou 8 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Donc la première section, comme j'avais annoncé dans le plan général, la première section portera sur le thème de la divinisation chez Irénée et les pères grecs. Et la deuxième section portera sur Pélage et Augustin. J'aurai sans doute la prochaine fois à parler encore d'Augustin, ou plus exactement des débats qui ont suivi la controverse entre Pélage et Augustin. Il est clair que ces débats entre Pélage et Augustin ont occupé une place majeure et que notre réflexion sur le salut en Occident en a été très profondément marquée. Il y a vraiment un tournant avec cette réflexion de Pélage et d'Augustin. Mais il ne faudrait pas que ces débats liés aux controverses entre Augustin et Pélage, empêche de découvrir qu'il y a eu d'autres approches, à l'époque des Pères de l'Église, d'autres approches du salut. Et en particulier, c'est donc la première section dans laquelle je m'engage maintenant, il y a eu d'intenses réflexions sur le thème de la divinisation. Cela principalement chez les pères grecs. Alors, j'ai mis comme titre de cette section le thème de la divinisation chez Irénée et les pères grecs. Bon, en fait, Irénée était évêque de Lyon, en Occident, mais il venait d'Asie mineure. Il venait de l'actuelle Turquie. Et en tout cas, il écrivait en langue grecque. Alors, je n'ai pas voulu le présenter comme étant lui-même un père grec, hein, puisqu'il a été essentiellement évêque de Lyon, mais il était en tout cas un écrivain de langue grecque, et il est vraiment le premier à avoir développé avec beaucoup d'insistance le thème de la divinisation. Il a été en tout cas suivi dans ce sens par pratiquement toute la tradition patristique grecque. Et je dirais même au-delà. La tradition de l'Église byzantine et jusqu'à l'orthodoxie aujourd'hui insiste beaucoup sur ce thème de la divinisation. Je dis divinisation, ça ne veut pas dire que Irénée ou les pères grecs ne parlaient pas du salut. Ils employaient aussi le mot salut. Le mot grec qui se traduit par salut, c'est le mot sotéria. Soteria, le salut. Donc, bien sûr. Autre mot que l'on traduit par divinisation. Et aussi. C'est le mot que l'on traduit en français par divinisation ou déification. Et je voudrais tout de suite indiquer la portée de cette insistance des pères grecs sur la divinisation. C'est que pour eux, le salut, ce n'est pas simplement le rachat ou la rédemption par rapport à la faute ou au péché. Nous, évidemment, en Occident, enfin, pour ceux d'entre nous qui sommes occidentaux, nous sommes marqués par une tradition qui, dans une large mesure, a surtout mis l'accent sur le salut comme délivrance de la faute ou délivrance du péché. C'est justement l'héritage, notamment, des controverses entre Augustin et Pélage. Mais les pères grecs, sans ignorer cela, bien sûr, les pères grecs parlaient aussi du salut comme délivrance de la faute. Mais pour eux, le salut ne se limitait pas du tout à cette dimension-là. Le salut, ils en parlaient d'abord de manière tout à fait positive. Ils en parlaient en termes de divinisation. Le salut, c'est ce par quoi, ce à la faveur de quoi, l'être humain est appelé à communier à la vie même de Dieu. En introduction, il faut préciser que ce thème de la divinisation avait déjà un enracinement dans la Grèce ancienne. On pourrait dire d'ailleurs plus largement dans le monde gréco-latin, le monde gréco-romain de l'Antiquité. Ce serait tout à fait possible et tout à fait passionnant de suivre les évolutions de ce thème de la divinisation chez les Grecs avant la venue du Christ. On verrait que ça remonte très loin, déjà chez Homère. Chez Homère, on trouve l'idéal à une existence comme les dieux. Voilà. Une existence comme les immortels. On fait l'expérience d'être dans un monde où il y a la souffrance, où il y a la maladie, où il y a toutes sortes d'épreuves, où il y a la guerre de Troie, où il y a toutes sortes de péripéties, vous savez, celles que rapporte l'Odyssée, hein, tous les voyages d'Ulysse qui est en butte à la tempête, la mer déchaînée, les sirènes, le cyclope, etc. Eh bien, au milieu de tout cela, on porte en soi l'aspiration à une existence avec les immortels, une existence elle-même immortelle, être comme les dieux. Et cet idéal de la divinisation est repris, en fait, dans toute la tradition de l'Antiquité grecque, et en particulier dans la tradition philosophique. Bien sûr, chez les auteurs tragiques aussi, mais notamment dans la tradition philosophique. Platon en particulier. Le but de l'existence humaine, pour un ensemble de philosophes, c'est justement dans cette tradition de la Grèce ancienne, le but, l'idéal, c'est de pouvoir être un jour assimilé complètement à la divinité, voire identifié à la divinité. Alors simplement, pour Platon par exemple, cette assimilation au divin, elle ne sera possible que lorsque l'âme aura quitté le corps. Le corps qui est un tombeau, hein, soma, le corps, séma, la sépulture, hein, le jeu de mots chez Platon, hein, le corps est un tombeau, une sépulture. Et donc l'idéal, c'est d'être affranchi de cette corporéité pour pouvoir précisément atteindre l'immortalité bienheureuse. Cette immortalité qui n'est autre qu'une participation à la vie divine, une forme de divinisation. Et cet idéal de la divinisation, il s'accentue encore dans les derniers siècles précédant la venue du Christ, il s'accentue encore à la faveur de ce qu'on appelle les religions à mystère. Troisième, deuxième siècle, premier siècle avant Jésus-Christ, on voit se répandre toute une série de cultes orientaux, les mystères, les cultes à mystère, dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, parce que les gens qui se faisaient initier n'avaient pas le droit de parler. C'est ce qu'on appelle, il y avait la discipline de l'arcane. Alors, on sait quand même un certain nombre de choses là-dessus, parce qu'il y a en particulier un auteur chrétien, un auteur qui s'est converti au christianisme, Clément d'Alexandrie, qui semble-t-il avait directement connu l'initiation, les mystères d'Eleusis, et qui n'hésite pas à divulguer quand même certains aspects de ces cultes et mystères. C'est assez mystérieux. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Grèce. 30 kilomètres au sud d'Athènes, on peut voir les ruines d'Eleusis, les mystères d'Eleusis. Alors c'était très. Il y avait toute une initiation qui passait par un séjour dans le sanctuaire d'Eleusis. On y restait toute une nuit. Enfin, il y avait toute une. Et alors, le but de cette initiation, c'était précisément de connaître dès maintenant, par anticipation, une certaine expérience d'assimilation aux immortels, d'assimilation aux dieux. En tout cas, quelles que soient les différences entre les auteurs, entre les courants dans ce monde de la Grèce ancienne, il y a toujours ce point commun, l'aspiration à participer à l'immortalité bienheureuse des dieux. Eh bien, Irénée, saint Irénée, et puis les pères grecs, à partir du IIIe siècle, reprennent ce thème de la divinisation. Mais évidemment, ils le réinterprètent à la lumière de la foi chrétienne. Et en particulier, les auteurs chrétiens font subir à ce thème de la divinisation deux transformations décisives. Ils reprennent le mot même. Ce ne sont pas les auteurs chrétiens qui ont inventé ce mot de divinisation, hein, théosis. Ils le reprennent à l'Antiquité grecque, à la langue grecque ancienne, mais ils font subir à cette notion de divinisation deux transformations décisives. Première transformation, pour les auteurs chrétiens, évidemment, cette divinisation, elle est possible par la médiation du Christ Sauveur. Ce n'est pas l'être humain qui va de lui-même pouvoir accéder à cette divinisation ou qui sera introduit par une grâce divine immédiate, mais cette divinisation, pour les pères grecs, elle est rendue possible par la médiation du Christ. Elle est rendue possible par le fait que Dieu est devenu homme un jour du temps. On va revoir cela très précisément avec saint Irénée. Ça, c'est la première modification. Et la deuxième transformation que les pères grecs font subir à cette notion de divinisation, c'est que pour eux, la divinisation, ce n'est pas simplement l'immortalité de l'âme, mais c'est la résurrection de la chair. Alors, il faudrait porter quelques nuances, parce qu'il y a certains pères grecs qui sont davantage marqués par la philosophie grecque, et qui parle beaucoup de l'immortalité de l'âme, hein, mais quand même globalement, ils sont marqués par cette affirmation qui vient du Nouveau Testament. L'espérance qui est offerte aux hommes n'est pas simplement celle d'une immortalité de l'âme sans corporité, mais c'est l'espérance d'une résurrection de la chair. Autrement dit, une âme qui sera elle-même en relation avec d'autres, une âme qui sera elle-même dotée d'une corporéité. Parce que le corps, fondamentalement, c'est ce qui nous met en relation, justement, en relation avec le monde, en relation avec autrui. Alors, essayons de voir plus précisément comment ce thème de la divinisation, revu et corrigé à la lumière de la foi chrétienne, va se trouver développé par les auteurs chrétiens. Je le montrerai à travers quatre exemples. Il y en aurait d'autres, mais je prends quelques exemples significatifs. Et je vous invite à suivre la feuille intitulée « Le thème de la divinisation chez les pères grecs » où j'ai justement copié, transcrit quelques citations tout à fait intéressantes qui nous aident à comprendre ce qu'est cette divinisation pour Irénée et pour les auteurs grecs. Alors, le premier exemple que je prends, je vais suivre l'ordre chronologique, c'est donc saint Irénée. Irénée qui venait d'Asie mineure et qui s'est retrouvé évêque de Lyon en l'année 177. juste au lendemain du martyre des chrétiens de Lyon et de Vienne. Il y avait une persécution déclenchée contre les chrétiens de Lyon et de Vienne. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, on a retrouvé les restes de l'amphithéâtre des Trois Gaules, qui est l'endroit même où Sainte-Blandine et d'autres ont subi le martyre, avant que leur corps ne soit dispersé dans le fleuve, le Rhône, l'un des deux fleuves de Lyon. Voilà, donc Irénée, évêque de Lyon, vers la fin du IIe siècle, répond en particulier au courant gnostique. J'ai fait allusion déjà au courant gnostique, ces courants qui étaient très répandus au 1er siècle, au 2e siècle, qui soutenaient l'affirmation suivant laquelle certains êtres humains, et certains seulement, peuvent être sauvés grâce à la connaissance. La gnose, c'est le salut par la connaissance. Mais certains seulement. Il y a un certain nombre d'humains qui sont entièrement enfermés dans le monde de la matière et qui n'auront jamais part au salut. Mais certains peuvent être sauvés parce qu'ils ont en eux une étincelle de lumière, ils ont en eux des semences qui leur permet de connaître le Dieu suprême. Eh bien, saint Irénée s'oppose à ces courants gnostiques et il s'oppose à eux précisément en mettant en évidence l'importance centrale de la foi en Jésus-Christ. Ce qui est la source de notre salut, ce n'est pas la connaissance ou ce n'est pas notre participation à la connaissance d'un Dieu suprême qui serait séparé radicalement du monde. Non, ce qui est la source de notre salut, pour Irénée, c'est le Christ. Le Christ, c'est-à-dire Dieu devenu homme, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est lui qui, par sa venue dans notre humanité, par sa passion et par sa résurrection, c'est lui qui, précisément, nous a ouvert le chemin du salut. Et ce salut, pour saint Irénée, ce n'est pas simplement la libération de la faute, la délivrance du péché, mais c'est aussi, et de façon plus radicale encore, l'entrée dans la condition de fils adoptif. Comme l'avait dit saint Paul déjà, nous sommes appelés à devenir fils adoptif. Le salut, c'est l'entrée dans la communion avec Dieu. C'est la participation à la vie divine. Et Irénée exprime cela à travers des formules célèbres qui sont très, très saisissantes. Je vous ai mis au moins deux de ces formules. Je lis la première. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, en général, on cite uniquement cette partie de la phrase. Mais chez Irénée, il y a une suite. La suite est très intéressante pour nous. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et il continue, « Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ?» Et Irénée parle du salut comme de cette vie qui est donnée à l'être humain, cette vie qui consiste précisément à voir Dieu, à être admis auprès de lui, à le connaître et à l'aimer. Et puis, il y a une autre phrase d'Irénée qui est très très connue aussi. Je la cite. « Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. » Voilà. Alors, souvent, il y a... On emploie la formule « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». En réalité, sous cette forme, c'est Athanase, au IVe siècle, qui a dit cela. « Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu ». La formule littérale d'Irénée, c'est celle que je viens de lire. « Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. Cela même qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu. Donc, Irénée, au fond, nous dit déjà, en substance, ce qui va être repris par Athanase. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà cette expression, cette formulation de la vocation divine, de la vocation humaine, pardon, à devenir participant de la vie même de Dieu. C'est la manière privilégiée pour Irénée de parler du salut. Alors bien sûr, Irénée parle aussi du salut comme rédemption, comme délivrance du péché. Mais justement, au Moyen-Âge, parfois on posait la question, est-ce que Dieu serait devenu homme si l'homme n'avait pas péché ? Est-ce que Dieu serait devenu homme si l'homme n'avait pas péché ? Alors les théologiens ne répondaient pas tous de la même manière à cette question. Mais j'aime beaucoup la réponse du théologien franciscain Duns Scott, vers la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle, qui dit, oui, même si l'homme n'avait pas péché, Dieu serait devenu homme. Parce que, au fond, le motif de l'incarnation, c'est pas simplement la nécessité de remédier au péché de l'homme. Le motif de l'incarnation, c'est que positivement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être un jour participant de la vie divine. Et donc, ce dessein de la divinisation de l'homme fait partie intégrante de la volonté originelle de Dieu. Voilà la réponse de ce franciscain, Duns Scott. Alors, bien sûr, concrètement, nous sommes dans un monde marqué par la faute, le péché, donc le salut. Ça se présente bien pour nous comme délivrance de la faute, du péché. Mais ce n'est pas seulement cela. Ça n'épuise pas, en quelque sorte, le motif pour lequel Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme participe à la vie divine. Voilà donc un premier témoignage de cette très belle conception des pères grecs. Enfin, là, il s'agit pas encore des pères grecs, il s'agit de Saint Irénée de Lyon. Mais les pères grecs vont s'engouffrer dans cette ligne. Oui, la vocation de l'être humain, c'est de pouvoir communier à la vie divine. Alors précisément, abordons directement maintenant les pères grecs. Deuxième arrêt, si vous voulez, deuxième halte, Origène. Origène, nous sommes ici dans la première moitié du IIIe siècle. Et dans un passage de son œuvre, Origène expose de façon très dense, très concise, précisément sa conception du salut comme divinisation. Alors, je vais avoir du mal à lire cette phrase, parce que c'est une seule phrase, elle fait 10 lignes, comme vous voyez. Mais c'est important que ce soit une seule phrase. C'est une seule phrase. C'est comme le credo, si vous voulez. On prend son temps parce que c'est long, on est obligé de respirer, mais c'est une seule phrase, le credo. Et c'est important que ce soit une seule phrase. Eh bien, voilà, lorsque Origène nous parle du salut, c'est une seule phrase. Mais alors, voilà tout ce qu'il nous dit, c'est très dense. Il nous dit ceci, « Jésus lui-même et ses disciples voulaient que leurs adhérents ne croient pas seulement à sa divinité et à ses miracles, comme s'ils n'avaient point communié à la nature humaine et pris cette chair qui, chez les hommes, convoite contre l'esprit, mais ils voyaient en outre que la puissance qui est descendue jusqu'à la nature humaine et aux vicissitudes humaines et qui a pris une âme et un corps d'homme, contribuait, parce qu'elle est objet de foi, en même temps que les réalités divines, au salut des croyants, ceux-ci voyant qu'avec Jésus, la nature divine et la nature humaine ont commencé à s'entrelacer, afin que la nature humaine, par la communion à la divinité, devienne divine, non dans Jésus seul, mais encore en tous ceux qui, avec la foi, prennent le genre de vie que Jésus a enseigné et qui élèvent à l'amitié pour Dieu et à la communion avec lui quiconque vit suivant les préceptes de Jésus. Fin de la phrase. Voilà. Alors, on a dans cette phrase une admirable récapitulation, au fond, de la doctrine d'Origène sur le salut compris comme divinisation. Je reprends cette phrase et je la commente, je l'explique. Bon, le début, je pense, est relativement simple. Origène nous dit, Jésus et ses disciples voulaient que leurs adhérents ne croit pas simplement à sa divinité comme si lui, Jésus, n'avait point communié à la nature humaine. Voilà. Parce que, si vous voulez, on pourrait très bien imaginer que voilà, Jésus se soit présenté simplement comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu venant apporter le salut. En fait, Jésus s'est présenté comme homme. Bien sûr, un homme qui était reconnu dans la foi comme le Fils de Dieu, mais qui n'en était pas moins un homme. Donc Jésus et ses disciples voulaient que leurs adhérents reconnaissent cette nature humaine du Christ. Ils voulaient que leurs adhérents reconnaissent que Jésus avait pleinement assumé la nature humaine. Alors je continue le texte, mais ils voyaient en outre que la puissance qui est descendue jusqu'à la nature humaine, autrement dit la puissance de Dieu qui est descendue, c'est une manière d'exprimer ce que on pourrait appeler, à la suite de l'hymne de l'Épître aux Philippiens, la kénose du Fils de Dieu. La puissance divine s'est anéantie, elle est descendue. Elle est descendue jusqu'à la nature humaine et jusqu'aux vicissitudes humaines. Cette puissance divine, elle a pris une âme et un corps d'homme. Vous voyez, Origène, hein, il insiste beaucoup sur cette totale humanité du Fils de Dieu, corps et âme. Donc Jésus et ses disciples voyaient, ou plutôt les adhérents à Jésus et à ses disciples, ceux qui les suivaient, ils voyaient que la puissance divine qui a pris une âme et un corps d'homme contribuait, parce qu'elle est objet de foi, au salut des croyants. Voilà. On dit ce qui sauve, ce n'est pas simplement le Fils de Dieu, désincarné, si je puis dire. Ce qui sauve, c'est le Fils de Dieu devenu chair. Et c'est surtout la suite qui nous intéresse, là, pour une réflexion sur la divinisation. Ceux-ci voyant, donc les croyants, voyant qu'avec Jésus, la nature divine et la nature humaine ont commencé à s'entrelacer, union des deux natures, afin que la nature humaine, par la communion à la divinité, devienne divine. Voilà, nous trouvons ici notre thème de la divinisation. Le contenu du salut, c'est cette divinisation, afin que la nature humaine, par la communion à la divinité, devienne divine. Alors, Origène aurait pu s'arrêter là, mais il ajoute encore quelque chose, que la nature humaine devienne divine, non pas simplement dans Jésus seul, parce qu'évidemment, avec la résurrection de Jésus, la nature humaine de Jésus est entrée pleinement dans la gloire de Dieu. Donc, non pas dans Jésus seul, mais encore en tous ceux qui, avec la foi, prennent le genre de vie que Jésus a enseigné et qui élève à l'amitié pour Dieu et à la communion avec lui quiconque vit suivant les préceptes de Jésus. Voilà. Alors, le texte est admirablement construit parce que, il est tout à fait au début, il nous est dit que Jésus a communié à la nature humaine. Jésus a communié à la nature humaine. C'est la deuxième ligne. Et quatre lignes avant la fin, il nous est dit que par Jésus, la nature divine et la nature humaine ont commencé à s'entrelacer afin que la nature humaine, par la communion à la divinité, devienne divine. Donc Jésus, le Fils de Dieu, a communié à la nature humaine pour que la nature humaine puisse à son tour communier à la nature divine. Voilà. La phrase d'Origène veut en quelque sorte exprimer le mouvement dynamique de ce processus, si je puis dire, de la divinisation. C'est une manière d'expliciter, au fond, la formule qu'on avait lue chez Irénée. Dieu s'est fait l'un de nous pour que nous devenions ceux-là même qu'il est. Le Fils de Dieu a communié à la nature humaine pour que la nature humaine puisse communier à la divinité, et qu'elle puisse communier à la divinité, non pas simplement dans la personne singulière de Jésus, mais en tout être humain appelé à la résurrection de la chair. Voilà le raisonnement d'Origène. Troisième exemple, un peu plus tard, au IVe siècle, Grégoire de Nyssa. Ici encore, nous allons avoir une présentation de ce même thème, hein, du salut, compris comme divinisation de la nature humaine. Je cite, « L'homme qui parmi les êtres ne compte pour rien. » Alors il faut s'entendre sur cette formule hein, qui nous paraît étonnante aujourd'hui. En fait, la suite explique cette formule. Grégoire de Nyssa a en vue ce que disent les psaumes sur la précarité de l'être humain. Il ne s'agit pas de dire que l'être humain n'est rien. Il s'agit de dire que, voilà, il est fragile, radicalement fragile, si on le compare avec la divinité. Donc l'homme qui, parmi les êtres, ne compte pour rien, qui est poussière, voilà l'allusion au psaume, hein, l'homme qui est poussière, herbe, vanité. Donc cet homme, une fois adopté pour fils par le Dieu de l'univers, devient le familier de cet être, d'une excellence et d'une grandeur telle qu'on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le comprendre. Voilà une autre manière de dire la divinisation. L'être humain, alors même qu'il est poussière, une goutte d'eau par rapport à l'océan de la divinité, pour reprendre une image des pères grecs, eh bien cet être humain, il est en même temps appelé à devenir le familier de Dieu. Le familier de Dieu. Le familier de l'être qu'on ne peut ni voir, ni entendre, ni comprendre. Et Grégoire de Nyssa continue. Quelles actions de grâce dignes d'une telle faveur pourrait-on trouver? Par quelle parole, par quelle pensée, par quel élan de l'esprit exalter la surabondance de cette grâce? L'homme dépasse sa propre nature. De mortel, il devient immortel. De périssable, impérissable. D'éphémère, éternel. En un mot, d'homme, il devient Dieu. C'est vraiment la manière la plus explicite, le thème de la divinisation. Et Grégoire continue. En effet, rendu digne de devenir fils de Dieu, il aura en lui la dignité du Père, enrichi de tous les biens paternels. Ô munificence du Seigneur très riche, qui sont grands les dons des trésors ineffables. Voilà, donc Grégoire de Nyssa, là on est aux alentours de 370, 380 à peu près, dans la seconde moitié du IVe siècle, en Cappadoce. Hein, Grégoire de Nyssa était l'un des pères cappadociens, donc cette région de l'actuelle Turquie, au centre de la Turquie. Et Grégoire de Nyssa, là encore, est un grand témoin de cette tradition relative à la divinisation du chrétien. Enfin, dernier exemple, tout à fait à la fin de l'époque patristique, ou presque à la fin de l'époque patristique, donc Maxime le Confesseur, au VIIe siècle, donc Maxime le Confesseur, qui est aussi un père grec, même s'il a séjourné pendant toute une époque en Afrique du Nord. Maxime le Confesseur écrit ceci, le dessein du Seigneur, dit David, demeure éternellement, les pensées de son cœur de génération en génération. Il appelle sans doute dessein de Dieu l'ineffable kénose, l'anéantissement, l'abaissement du fils unique en vue de la déification de notre nature. Il y a une faute, hein, de notre nature. Voilà. Donc, vous voyez, la formule est très serrée. Hein. L'ineffable kénose, l'ineffable anéantissement du fils unique en vue de la divinisation, de la déification de notre nature, cette kénose par laquelle il porte incluse en lui la fin de tous les siècles. Et il appelle pensée de son cœur les raisons de la providence et du jugement selon lesquelles il dirige avec sagesse, comme des générations différentes, notre vie présente et future, en assignant respectivement à chacune le mode qui lui convient. Donc, là encore, vocation de l'être humain à la divinisation, vocation de l'être humain à communier à la vie même de Dieu. Alors pour les pères grecs, cette vocation à communier à la vie même de Dieu, elle commence dès cette vie. Dès cette vie, par le baptême, nous devenons justement participants de cette vie divine. Mais cette communion à la vie divine ne sera évidemment parfaite, selon les pères grecs, que dans l'au-delà, lorsque nous serons nous-mêmes ressuscités avec le Christ ressuscité. Alors Maxime le Confesseur insiste sur le fait que cette vocation de l'être humain à la divinisation, elle advient par la ressemblance avec le Christ et par l'accueil de l'Esprit. C'est pas une immortalité de l'âme comme la pensée, comme les pensées des certains les philosophes de l'Antiquité grecque. Cette communion à la vie divine, cette divinisation, elle est rigoureusement indissociable de la ressemblance avec le Christ et de l'accueil de l'Esprit. Évidemment, cette ressemblance avec le Christ, homoioma, comme disait saint Paul, cette ressemblance, cette conformité au Christ et cet accueil de l'Esprit, il commence dès maintenant. Alors, je disais tout à l'heure, il commence dès maintenant avec le baptême, la vie sacramentelle, plus largement, toute la vie sacramentelle est comprise par les pères grecs comme une vie par laquelle se déploie déjà dans notre existence présente la divinisation. Mais cette communion à la vie divine, elle se développe aussi dès ici-bas à travers l'expérience spirituelle, indépendamment même de la vie sacramentelle. En fait, cette communion à la vie divine, elle advient et elle se développe chaque fois que l'être humain accueille dans sa propre vie le Christ et chaque fois qu'il est dans sa propre vie obéissant à l'Esprit. Et Maxime le Confesseur développe à ce sujet le très beau thème de la naissance du Christ dans l'âme du baptisé. Je vous ai donné d'ailleurs quelques phrases de Maxime dans lesquelles il exprime cette idée qui aura une très grande postérité. C'est une idée qu'on retrouvera chez les auteurs spirituels du Moyen-Âge, chez Maître Eckhart par exemple, et puis au-delà, à l'époque moderne, chez Thérèse d'Avila, chez Jean de la Croix. Maxime le dit en ces mots, je cite, « Comme il le veut, le Christ naît toujours mystérieusement, s'incarnant à travers ceux qu'il sauve. Il fait de l'âme qu'il enfante une mère vierge. » Bien sûr, le Christ est né un jour du temps, mais il naît toujours mystérieusement. Il s'incarne à nouveau, de quelque manière, à travers ceux et celles qu'il sauve. Font accueillir la naissance du Verbe de Dieu en soi, dans son âme, dans sa propre vie, c'est déjà être engagé dans cette œuvre de divinisation, dans cette œuvre de salut. Du salut compris comme communion à la vie divine. Alors, quelques autres citations de Maxime, j'aurais pu vraiment les multiplier. L'homme qui est humble, doux, en mouvement vers Dieu, ne connaît qu'un plaisir, la vie commune de l'âme avec le Verbe. Et ça, c'est possible déjà dès maintenant, même si ça ne pourra être accompli en plénitude que par-delà la mort. Ou encore, le Logos, le Verbe de Dieu, devient tout pour nous dans la mesure où nous sommes nourris de vertu et de sagesse, et de manière diverse, comme lui-même le sait, il prend un corps en chacun des sauvés, alors même que nous sommes encore en ce siècle. Cette idée de la divinisation commence ici-bas, dès maintenant, dans la mesure où nous accueillons le Verbe de Dieu. Et je voudrais terminer ce développement par un dernier extrait de Maxime le Confesseur qui apporte quelque chose d'essentiel aussi. « Si Dieu, le Verbe de Dieu le Père, est devenu fils de l'homme et homme pour faire Dieu et fils de Dieu les hommes. » Toujours la même idée, hein. C'est la même chose depuis Irénée. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc si le Verbe de Dieu est devenu fils de l'homme et homme pour faire Dieu et fils de Dieu les hommes, hein, des dieux et des hommes, ou des hommes et des dieux, je ne me rappelle plus le titre du film fameux, c'est la même idée. Voilà. Eh bien, croyons croyons que nous serons là où est maintenant le Christ lui-même, tête du corps tout entier, le Christ devenu pour nous précurseur de notre nature auprès du Père. Ça, c'est très très beau. Hein. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nature humaine ne sera pas abolie avec la résurrection. Je reviendrai là-dessus, mais je termine la lecture de ce passage de Grégoire de Nice, pardon, de Maxime le Confesseur, excusez-moi, je passe d'un auteur à un autre. Il sera, donc Dieu sera au milieu d'eux, Dieu sera dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée des sauvés. Il identifie purement simplement les sauvés et les dieux. C'est pas du polythéisme, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est que c'est pas un retour au polythéisme. Hein. C'est simplement l'idée que les hommes, les femmes qui auront été accueillants pleinement au Verbe de Dieu et à l'Esprit de Dieu seront pleinement participants de la vie divine. C'est en ce sens-là qu'ils sont dits des dieux. Hein. Et Maxime poursuit, Dieu sera au milieu d'eux et leur partagera les récompenses de la béatitude de là-bas. Aucun espace ne le séparera de ceux qui sont dignes. Voilà. Alors je reviens sur la formule, là où est maintenant le Christ lui-même, nous nous y trouverons, nous serons là où est le Christ lui-même, le Christ devenu pour nous précurseur de notre nature auprès du Père. Très important, hein, parce que ça veut dire que, en quittant ce monde, pour les pères grecs, en tout cas pour Maxime, eh bien, nous n'abolissons pas, enfin, notre humanité n'est pas abolie. Bien sûr, il y a le passage par la mort, hein, mais la divinisation ne signifie pas une sorte de contournement de l'humanité. Hein, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, Dieu est devenu l'homme, pour que l'homme soit devenu Dieu. Mais on pourrait objecter, mais c'est quand même dommage que l'homme, quelque part, ne reste pas homme. C'est quand même une objection qui, réellement, a été faite à l'époque moderne, contemporaine, par des philosophes, par des théologiens. Alors, comment comprendre la divinisation? Il faut la comprendre, certes, comme une pleine communion à la vie divine, mais une communion telle qu'elle ne fait pas abstraction de ce qu'aura été le meilleur, précisément, de l'expérience humaine ici-bas. Ainsi qu'il en va déjà pour le Christ. Lorsque le Christ se manifeste à la fin de l'Évangile, lorsqu'il se manifeste comme ressuscité, il se montre à ses disciples avec une corporité. Le récit des apparitions, enfin les récits d'apparitions, attirent l'attention justement que le Christ ressuscité n'apparaît pas comme un pur et simple esprit. Il apparaît comme quelqu'un qui est, par-delà la mort, en mesure d'être en relation avec ceux qu'il avait connus avant sa passion et avant sa mort. Donc en ce sens-là, l'entrée définitive, complète dans la gloire du ressuscité n'abolit pas ce qu'aura été le passage par l'expérience humaine. Eh bien, Maxime le Confesseur transpose cela, ce qui vaut du Christ, il le transpose à la situation commune de l'humanité. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Cela ne signifie pas que l'humanité soit purement et simplement congédiée. Ce qui est appelé à communier à la nature divine, c'est justement la nature humaine. Ce qui montre bien que la nature humaine n'est pas abolie comme telle. Elle est abolie dans les conditions de contingence qui les caractérisent aujourd'hui. La nature humaine ne sera plus soumise aux limites de la finitude humaine, elle sera plus soumise à la mortalité, mais néanmoins, elle sera intégrée dans l'expérience de la résurrection. C'est l'intuition, si vous voulez, que Maxime partage à travers cette expression, le Christ précurseur de notre nature auprès de Dieu. Voilà, alors donc on a ici un thème vraiment majeur, je dirais un thème massif de toute la tradition patristique grecque qui sera repris par la tradition byzantine jusqu'à nos jours, jusqu'à l'orthodoxie actuelle, et qui est certainement très important. Il ne s'agit pas d'opposer radicalement cette tradition grecque et la tradition latine qui va beaucoup plus insister sur la rédemption par rapport à la faute ou au péché. Mais il s'agit de comprendre qu'il y a là un accent, une insistance spécifique de la tradition grecque et qu'il est important de retrouver aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une approche du salut qui réduirait le salut à n'être que la délivrance du péché. Le salut dit quelque chose de beaucoup plus positif aussi, à savoir l'entrée dans la condition des fils adoptifs et la communion à la vie même de Dieu. C'est cela l'apport essentiel de cette doctrine des pères grecs sur la divinisation. Alors, je vais passer donc maintenant à la deuxième section. Enfin, sauf s'il y a une question sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas sur la divinisation. Oui. Oui. Jean est une référence très importante pour les pères grecs. Tout à fait. Le thème de la vie. On voit bien dans le Nouveau Testament lui-même, le salut, j'avais dit, je crois, le premier jour, lors du premier cours, le mot salut peut se décliner à travers un certain nombre de vocabulaire, dont celui de la vie, en effet, dans l'évangile de Jean en particulier. Et l'entrée, le salut, c'est l'entrée dans la vie même de Dieu, d'un Dieu qui est amour, ou d'un Dieu qui n'est qu'amour, comme aimait dire le père Varillon. C'est ça qui est cette intuition des pères grecs, je crois. Le salut comme participation, comme communion à la vie même de Dieu et d'un Dieu qui est amour. Mais cela étant rendu possible par la kénose du Fils, ce mouvement, Dieu devenu homme, pour que l'homme puisse être pleinement participant de la vie divine. Oui. Donc Paul insiste sur les deux, parce que chez Paul, vous avez évidemment un accent qui est très fortement mis sur la libération par rapport au péché, enfin, pensez à l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, c'est clair, hein. En particulier l'épître aux Romains, hein. Chapitre 4 et 5 de l'épître aux Romains. Mais Paul, en même temps, c'est Paul qui introduit le thème du baptisé comme fils adoptif, le thème de la vie. Tout à fait central, enfin le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens qui insiste sur la résurrection montre bien que justement le salut ne se limite pas à la rédemption par rapport au péché, mais que c'est aussi de l'ordre de la vie et d'une vie plus forte que la mort. On trouve l'un et l'autre chez Paul. Mais c'est vrai que la tradition grecque a été spécialement attentive à cet aspect de la filiation adoptive et de la communion à la vie divine. Parce que la tradition latine, principalement à cause de la controverse avec Pélage, a été porté davantage à mettre l'accent sur le salut, compris comme libération du péché. Un autre accent. Oui. Non, alors, résurrection de la chair, cela implique précisément que la résurrection n'est pas une simple immortalité de l'âme et que donc quelque chose de le meilleur de l'expérience constitutive de l'humanité se trouve intégré dans l'eschatologie, dans l'au-delà. Mais c'est vrai que ce thème de l'assomption, de l'intégration de la nature humaine n'a été explicitement développé. Il est impliqué par le thème de la résurrection de la chair, mais il n'a été explicitement développé qu'à partir du IVe siècle, enfin Grégoire de Nice d'abord, et puis Maxime le Confesseur au VIIe siècle. Ouais. Mais c'était tout à fait inclus et impliqué par l'idée même de la résurrection de la chair. Mais il a fallu un peu de temps pour que la théologie tire toutes les implications de cette affirmation. Alors, je vais simplement introduire avant la pause la deuxième section, donc Pélage et Augustin. Je serai évidemment beaucoup plus long sur ce deuxième aspect, cette deuxième section. Je voudrais au moins l'introduire. Vous voyez comment je vais procéder dans cette deuxième section. Vous avez un plan un petit peu détaillé. Le premier point, je vais dire quelques mots sur Pélage et ses disciples. sur les thèses de Pélage et des Pélagiens. Ensuite, je raconterai tout simplement la controverse pélagienne. Et enfin, ce sera l'aspect le plus long, j'essaierai de présenter et d'exposer autant que possible la pensée d'Augustin sur ce point. Augustin qui s'est diamétralement opposé à Pélage. Bon. Alors je voudrais au moins introduire Pélage. Bon, qui est Pélage? C'est quelqu'un qui est né en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du IVe siècle. Voilà. La doctrine pélagienne vient de Grande-Bretagne. Voilà. Elle vient de Grande-Bretagne. Ce Pélage était de famille chrétienne, mais j'ai rien contre l'Angleterre. Hein. De toute façon, je vais dire que c'est pas à cause de la Grande-Bretagne que Pélage a été pélagien, mais c'est à cause de l'Orient. Donc, simplement, il venait de là. Et il se retrouve à Rome vers 380. Il reçoit le baptême. Souvent, à cette époque, le baptême était administré assez tard. Et il mène, comme laïc, il mène une vie ascétique dans la ville de Rome. Il exerce une grande influence spirituelle. Il semble que Pélage ait acquis vraiment une grande notoriété dans cette ville de Rome. Et à partir d'un certain moment, il semble que ce soit après la prise de Rome en 410, Pélage passe en Afrique et il commence à développer une œuvre, l'œuvre qui va le faire davantage connaître et qui va aussi susciter les grandes controverses des années 410 et suivantes. En particulier, Pélage écrit un commentaire des épîtres de Paul. Et nous savons aujourd'hui que ce commentaire des épîtres de Paul a été très influencé, très marqué, par l'expérience que Pélage a faite en Palestine ou au Proche-Orient. Lui qui était originaire d'Angleterre, de Grande-Bretagne, il a séjourné un temps notable en Orient, au Proche-Orient. Le Proche-Orient qui était à cette époque marqué par le développement du monachisme. Il a rencontré là un certain nombre d'ascètes, de moines, et il semble que, justement, la découverte de ce milieu monastique, où l'on insistait beaucoup sur l'ascèse personnelle, hein, sur l'effort qu'il fallait mener pour atteindre la perfection, il semble que cela l'ait beaucoup influencé, que ça ait contribué à colorer, en quelque sorte, sa manière de lire les épîtres de Paul. Et c'est dans les années 410 qu'il il est de plus en plus connu, et c'est à partir de 412, surtout, que vont s'engager les fameuses controverses que je raconterai tout à l'heure. Mais pour le moment, si vous voulez, je me contente, je vais terminer par là, avant la pause, je me contente de dire d'abord que Pélage, très vite, a eu des partisans, notamment un certain Célestus et un certain Julien, qui allait devenir évêque. Julien d'Éclane, Julien évêque de la ville d'Éclane, en Italie. Je voudrais surtout dire que les thèses de Pélage, reprises également par Célestus et par Julien d'Éclane, peuvent se résumer en quatre points, essentiellement. Premier point, l'être humain est pleinement libre. Pleinement libre. C'est à l'être humain qu'il incombe d'opter pour le bien ou pour le mal. Bon, si vous agissez mal, eh bien, c'est votre faute. Si vous agissez bien, c'est votre mérite. Voilà. On voit bien ce qui est derrière, hein, l'expérience d'un ascète, hein, qui en plus, déjà il était ascète avant d'aller en Orient, mais en Orient il était saisi en voyant jusqu'où allait cette ascèse d'un salon de moines ou moniales. Et donc, à partir de là, sur la base de cette expérience, Pélage ne cesse pas de dire « Allez-y, retroussez vos manches, si je puis dire, et puis faites effort pour atteindre la perfection. C'est en votre pouvoir, vous êtes libre. Vous êtes libre. » Justement, allez dans ce sens de cette perfection, cherchez vous-même la justice et la sainteté. Voilà la première thèse. La première thèse de Pélage. L'homme par lui-même, peut atteindre cette perfection. L'homme est en quelque sorte émancipé de Dieu, au sens où il n'a pas besoin du secours de Dieu pour cela. À partir du moment où il est baptisé, eh bien, il peut lui-même, par ses propres forces, par ses seules forces, l'homme peut éviter tout péché et peut pratiquer toute justice. Première thèse. Deuxième thèse. Vous allez voir, tout ça est très cohérent. Deuxième thèse, il n'y a pas de péché originel. Ah. Parce que pour Pélage, il ne peut y avoir de péché que là où il y a un acte de liberté personnelle. Bon. Donc on ne peut pas admettre que quelqu'un qui n'a pas encore les moyens d'être libre soit atteint ou contaminé par un péché dit originel qui remonterait à Adam. Vous voyez, les deux thèses pour Pélage sont tout à fait corrélatives. Il y va d'ailleurs, pour Pélage, il y va non seulement d'une juste compréhension de la liberté humaine, mais il y va aussi d'une juste compréhension de la justice de Dieu. Ce ne serait pas conforme. Pélage a une haute idée de Dieu. Il dit que ce ne serait pas conforme à la justice de Dieu que de mettre l'être humain dans des situations telles que, dès sa naissance, il serait affecté par un péché dont il n'aurait pas la responsabilité. C'est assez séduisant, d'un certain côté, hein, cette thèse de Pélage. Pour nous, modernes, qui sommes tellement attentifs à l'exigence de la liberté. Bon. Mais Augustin ne sera pas d'accord. Hein. On verra ça, pourquoi. On verra pourquoi tout à l'heure. Troisième thèse de Pélage, la grâce du Christ dans tout ça, à quoi ça sert alors? Si l'homme est libre, et s'il n'y a pas de péché originel, bien, pour Pélage, oui, il y a bien la grâce du Christ. De toute façon, le Nouveau Testament en parle. Mais cette grâce du Christ, pour Pélage, elle est seulement une grâce d'exemple. Elle est de l'ordre d'un exemple. Exemple, ça s'oppose à rédemption. Ouais. Pélage dit, la grâce du Christ, le don du Christ, c'est pas un don qui serait nécessaire pour nous sauver, comme si nous avions besoin de cette grâce pour accomplir par nos propres forces la justice. Mais la grâce du Christ, c'est simplement un exemple. Alors, imitons cet exemple. Le Christ a été parfait. Eh bien, suivons le Christ. Imitons le Christ. Voilà. Donc, pour Pélage, c'est tout à fait important, cette grâce du Christ. Mais c'est simplement une grâce à imiter. C'est un exemple admirable, unique, mais que nous avons le pouvoir d'imiter par nos propres forces. Voilà. Pélage a des formules très fortes. Il dit par exemple, disons, je résume sa pensée, ce n'est pas une citation exacte, mais au fond, sa pensée peut se résumer de la façon suivante. L'être humain n'a pas à être libéré par la grâce du Christ, tout simplement parce que de soi, au départ, il n'est pas esclave. Alors, il y a quand même une nuance, une réserve. Pélage, tout de même, Pélage reconnaît que le Christ, par le baptême, nous purifie des péchés personnels. Et attention, il ne nous délivre pas du péché originel. Simplement, Pélage nous dit, bon ben voilà, si on est baptisé par exemple à 20 ans, bon, avant l'âge de 20 ans, on a pu quand même connaître librement. Librement, bien sûr, on a pu commettre un certain nombre de fautes. Alors, le baptême, là, il est nécessaire, mais c'est un baptême qui nous purifie de ses péchés, uniquement de ses péchés personnels. Et une fois, en tout cas, une fois qu'on a été baptisé, eh bien, notre liberté, à nouveau, peut pleinement accomplir le bien ou éventuellement opter pour le mal. Alors, si elle opte pour le mal, nous avons quand même un recours. C'est la pénitence. Voilà. Par la pénitence, nous méritons notre justice, notre justification. Mais, encore une fois, la grâce du Christ n'intervient que par rapport au péché personnel. Pas par rapport à un péché originel dont Pélage nie l'existence. D'où, dernière thèse de Pélage, qui est tout à fait le corollaire des thèses précédentes, c'est que le baptême n'est efficace que pour l'adulte qui a commis des péchés personnels. On baptise un enfant, un bébé, 3 jours. Très bien, mais de toute façon, le bébé, 3 jours, il n'a commis aucun péché. Comment voulez-vous qu'il ait commis un péché? Il n'est pas libre, il n'a pas le jugement, il n'a pas l'âge de raison. Et comme il n'y a pas de péché originel, de quoi voulez-vous que le baptême le libère? De rien. Donc, le baptême, il a bien une efficacité, mais uniquement par rapport aux péchés qui ont été commis librement, après qu'on ait eu l'âge de raison. Voilà. Donc, ne comprenons pas par là que Pélage se soit attaqué au baptême des enfants. Pélage n'attaque pas le baptême des enfants. Mais il dit simplement, le baptême des enfants, ça a simplement le sens d'une entrée dans le royaume. C'est-à-dire, on ne baptise pas un petit enfant pour le purifier d'un péché, puisqu'il n'a pas commis de péché, mais on baptise un petit enfant tout simplement pour lui ouvrir la porte du royaume des cieux. Et pour Pélage, ça a beaucoup de sens, cela. Pélage n'a rien contre le baptême des petits-enfants. Il dit simplement, le sens du baptême des petits-enfants, ce n'est pas de purifier d'un péché, puisque ce péché n'existe pas, puisque le péché suppose la liberté personnelle, mais le sens du baptême des petits-enfants, c'est simplement de leur ouvrir la porte du royaume des cieux. Ben, qu'est-ce que vous voulez de plus? Pas besoin d'ajouter une autre justification au baptême des petits-enfants. Voilà, je crois, de façon synthétique, les 4 thèses fondamentales de Pélage. Alors, on va s'arrêter maintenant. Je laisse un peu suspense. D'abord, qu'il faudra raconter la controverse. Hein. Pourquoi on s'est battu autour de ces questions? Et puis, surtout, voilà, comment Augustin a réagi? Et avec ça, on est parti pour 15 siècles jusqu'à maintenant. Quoi, hein. C'est vraiment ce débat entre Augustin et Pélage sur la question du salut. C'est un débat qui a marqué le plus profondément possible toute la tradition occidentale. Pas la tradition orientale, mais la tradition occidentale. Et c'est intéressant de le regarder de près pour voir exactement ce qui était en cause. Voilà, je vous invite donc à faire usage de toute votre liberté pendant ce temps de pause pour le bien, comme le recommande Pélage. Voilà, nous allons reprendre et, comme je l'ai annoncé, je voudrais, dans un second temps, dans cette deuxième section, je voudrais raconter brièvement la controverse pélagienne. Sur le plan un peu détaillé, j'ai en fait résumé cette controverse. Je vais pour l'essentiel me contenter de suivre ce résumé, ça évite d'entrer dans trop de détails, ça permet d'aller à l'essentiel. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est justement à l'occasion d'une controverse sur le baptême des enfants que le débat a éclaté au grand jour. Le débat éclate en fait en 412. Ce qui met le feu aux poudres, si je puis dire, c'est l'interprétation du baptême par Pélage et par ses partisans comme Célestus. Selon la tradition ancienne de l'Église, c'est inscrit dans le credo, le baptême, c'est le baptême pour la rémission des péchés. Nous sommes habitués à cette formule dans le credo, je crois au baptême pour la rémission des péchés. Selon la tradition ancienne de l'Église, le baptême est destiné à délivrer, racheter des péchés, à remettre les péchés. Or, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des thèses de Pélage consistait à tenir que précisément le baptême n'avait pas cette signification, que le baptême n'était pas nécessaire pour remettre les péchés puisqu'il n'y a pas de péché dans le cas des enfants. C'est à l'occasion de cette thèse que la controverse éclate. En effet, Célestus, curieusement, ce n'est pas Pélage hein, qui est l'origine première de la crise, même s'il va rapidement être au centre de la crise, mais c'est son partisan, son disciple, Célestus. Célestus donc critique la coutume de baptiser les enfants. En ce sens, il va plus loin que Pélage, hein, puisque Pélage, quant à lui, admettait la pratique du baptême des enfants. Mais au nom de l'interprétation que Pélage donnait du baptême, Célestus critique cette coutume de baptiser les enfants et, dès lors, il est traduit devant un concile, le concile de Carthage. Donc Célestus vivait en Afrique du Nord. C'est-à-dire la controverse dite pélagienne a éclaté en Afrique du Nord. Déjà, ceci contribue à nous expliquer pourquoi Augustin, très vite, va intervenir dans le débat, puisqu'Augustin était en Afrique du Nord. Donc, Célestus est traduit devant le concile de Carthage, et puis on n'y va pas par quatre chemins à l'époque, il est excommunié. Voilà. À cause de sa thèse sur le baptême des enfants. Augustin n'est pas présent à ce concile de Carthage. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape dans la controverse, eh bien, les œuvres de Pélage se diffusent de plus en plus et font de plus en plus d'adeptes. Et notamment en Orient, pour la raison que je disais tout à l'heure. En Orient, il y avait beaucoup de moines et moniales qui, de par leur expérience ascétique, étaient particulièrement disposés à accueillir l'insistance de Pélage sur le pouvoir de la liberté humaine, le pouvoir de se rendre aussi parfait que possible. Voilà. Et Jérôme, qui depuis 386 se trouvait du côté de Bethléem, où il était en train de traduire la Bible hébraïque en latin, Jérôme s'inquiète. De toute façon, Jérôme s'inquiète toujours. Hein. Mais enfin, il a toujours des sujets d'inquiétude dans sa correspondance, c'est frappant. Et alors, il s'inquiète, en l'occurrence, de l'influence croissante de Pélage. Alors, on organise quand même une tentative de conciliation en 415 en Palestine. Il y a d'abord une tentative de conciliation qui a lieu à Jérusalem, puis un concile local, régional, se réunit dans une ville qui s'appelle Diospolis, hein, je l'ai écrit sur le plan, Diospolis, qui se trouve également en Palestine. Pélage participe en personne à ce concile de Diospolis. Pélage, durant ce concile, a des formulations qui peuvent être prises en bonne part par les chrétiens qui s'opposaient à Célestus ou à Pélage. Il a des formulations ambiguës. Et ça lui rend service parce que, du coup, le concile lui donne raison. Le concile de 415 donne raison aux thèses de Pélage. Mais la controverse va rebondir en Afrique, troisième étape, parce que justement, on s'inquiète. Étant donné qu'il y avait un concile qui, à Carthage, en 412, avait excommuné Célestus, et qu'on vient maintenant d'apprendre qu'en Palestine, un autre concile donne raison à Pélage. Alors, on s'inquiète. On se dit, mais est-ce qu'en Palestine, est-ce qu'ils ne se sont pas fait, j'allais dire, rouler, si vous permettez le mot. Est-ce qu'en fait, ils n'ont probablement, en Palestine, ils ont été dupés, trompés par des formulations ambiguës de Pélage. Ils n'ont pas réalisé que Pélage, en fait, était victime d'une erreur grave. Et à ce moment-là, Augustin commence à être informé de cette agitation et il se met à lire de près les écrits de Pélage, et notamment ses commentaires de Paul. Il se fait communiquer les actes du concile de Diospolis. Et Augustin parvient à la conviction que Pélage, en effet, se trompe. Et il écrit un traité qui s'appelle De gestis Pelagii, hein, des actions de Pélage, hein, des faits et gestes de Pélage. Dans ce traité de 416, Augustin dénonce l'ambiguïté des formules de Pélage. D'où Pompidou, quatrième épisode, 417, le pape, qui s'appelle Innocent, lance une excommunication contre Pélage. Il déclare que Pélage est coupable, qu'il n'est pas innocent. Enfin, je ne veux pas jouer sur les mots. Voilà. Le pape Innocent déclare Pélage coupable. Hein, d'accord. Cinquième épisode, l'affaire rebondit parce que bien Innocent, le pape Innocent meurt, mais son successeur, qui s'appelle Zosime, reconnaît, lui, que Pélage est orthodoxe. Donc voilà que le nouveau pape, le pape Zosime, contredit la position du pape précédent. On peut dire, mais on peut se demander, mais comment ça se fait? Comment se fait-il? Enfin, quand même, le pape François ne contredit pas ce qu'a dit Benoît XVI. Et Benoît XVI ne contredit pas ce qu'a dit Jean-Paul II, normalement. Hein. Alors, comment ça se fait que Zosime ait contredit ce qu'avait dit son prédécesseur? Eh bien, c'est qu'entre-temps, Pélage et son grand disciple Célestus sont intervenus en haut lieu, comme on dit, auprès du pape. Et ils ont dit, ben voilà, il y a Augustin qui vient d'écrire ce traité contre nous, mais c'est complètement trompé. En réalité, c'est nous qui avons raison. Alors, du coup, Zosime met en cause la décision de son prédécesseur Innocent. Et il lave la réputation de Pélage et il reconnaît l'orthodoxie de Pélage. Ça suscite des remous, oui. Pardon, j'ai parlé des orthodoxes. Ah non, oui, mais j'ai dit l'orthodoxie, mais pas au sens de l'Église orthodoxe. Hein. L'Église orthodoxe, c'est plus tard, ça viendra plus tard. C'est... L'orthodoxie, ça veut dire la justesse de la doctrine. Hein, c'est uniquement dans ce sens-là. Aucune allusion à l'Église orthodoxe qui n'a rien à voir avec cette affaire-là. Hein, le schisme avec l'orthodoxie viendra beaucoup plus tard. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce revirement de la papauté à travers Zosime suscite des remous incroyables. Au point que le pape Zosime revient sur son premier jugement et il y a de nouveau un concile qui va se réunir le 1er mai 418, un nouveau concile qui se tient en Afrique et qui se prononce contre Pélage. Du coup, Zosime change d'avis, c'est-à-dire qu'il revient à l'idée de son prédécesseur et il renouvelle l'excommunication que son prédécesseur Innocent avait promulguée contre Pélage. Et il écrit lui-même il promulgue un document qui s'appelle la Tractoria, dans lequel les thèses de Pélage sont condamnées. Alors, l'affaire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un certain nombre d'évêques qui prennent le parti de Pélage. C'est comme pour l'arianisme au IVe siècle, il y a un certain nombre d'évêques qui prennent le parti d'Arius. Là, c'est pareil, il y a des évêques, à cette époque, il y a des évêques qui pouvaient prendre le parti de ce qui apparaissait comme pourtant hétérodoxe. Voilà. Et donc, des évêques protestent, avant tout un évêque d'Italie qui s'appelle Julien Desclanes. Et comme Julien Desclanes refuse le document du pape Zosime, il est destitué de son siège épiscopal en l'année 419. Voilà, donc l'essentiel de cette controverse pélagienne dans sa première phase, entre 412 et 419. De plus en plus, au fur et à mesure de ces années, Augustin intervient, prend la parole, il écrit. Et il va continuer à le faire. Toute la dernière partie de la vie d'Augustin va être marquée par la rédaction d'un certain nombre d'écrits contre Pélage, ce qu'on appelle les écrits anti-pélagiens de saint Augustin, jusqu'à sa mort en 430. Alors, j'annonce dès maintenant, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, j'annonce une deuxième phase de la controverse. C'est-à-dire que vers les années 425-428, par là, un certain nombre de moines trouvent que Augustin va un peu loin. Voilà. Donc Augustin s'est posé en adversaire résolu de Pélage et de Julien Desclanes, mais au fur et à mesure qu'on voit paraître les écrits d'Augustin, les écrits anti-pélagiens d'Augustin, un certain nombre de moines protestent. Non pas des moines du Proche-Orient, mais des moines d'Afrique, précisément des monastères de Hadrumète, qui se trouve actuellement, c'est une région de la Tunisie, si vous voulez, actuellement, et d'autre part, des monastères de Provence. Provence au sens large, hein, c'est-à-dire Marseille, mais aussi les Reims, plus la Côte d'Azur aujourd'hui que la Provence. Hein. Voilà. Les moines de l'Hérens et les moines de Marseille protestent contre Augustin. On leur donnera par la suite le nom de semi-pélagien. C'est un nom un petit peu trompeur. C'est un nom un petit peu trompeur. J'aurai l'occasion d'en parler la prochaine fois. Je reviendrai sur cette question parce qu'elle est très intéressante. Voir comment Augustin, vers la fin de sa vie, Augustin qui s'était tellement engagé dans l'opposition à Pélage, a lui-même été critiqué. Critiqué par des moines qui à la fois n'admettaient pas la thèse de Pélage, mais qui en même temps trouvaient qu'Augustin était quand même excessif dans sa réponse à Pélage. Donc ces moines de Hadrumète et de Provence voulaient tenir une position plus modérée que celle d'Augustin. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant de voir justement comment la réponse d'Augustin lui-même n'a pas été sans susciter des réactions. Alors maintenant, il faut en venir au point le plus important, qui est d'essayer de comprendre la pensée d'Augustin lui-même. Qu'est-ce qu'Augustin a réellement pensé ? Donc Augustin s'est opposé à Pélage, qu'est-ce qu'il a réellement pensé ? Et il faut d'autant plus aborder cette question qu'aujourd'hui, pour nous, la pensée de Pélage a quelque chose d'assez séduisant. Enfin, étant donné justement l'insistance dans la modernité, l'insistance sur la liberté humaine, sur la responsabilité humaine, les difficultés qui s'attachent à l'idée d'un péché transmis, d'un péché quasiment héréditaire. Ça ne va pas de soi aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus important de voir exactement ce qu'Augustin a dit, pour ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. En même temps, ce n'est pas sans raison qu'il s'est opposé à Pélage. Il y avait bien, sans doute, dans la pensée de Pélage, quelque chose qui faisait difficulté. Alors, qu'est-ce qui faisait difficulté ? Donc, essayons de voir cela, et je commence par dire, à titre préliminaire, ce qui me semble le point capital dans cette affaire, dans cette controverse pélagienne. Point capital, si vous voulez, l'enjeu principal de cette controverse, c'est que Pélage et ses partisans isolent en quelque sorte chaque péché à un moment donné de l'espace et du temps. Enfin, voilà, les pélagiens, ce sont des gens, des chrétiens de bonne foi, qui isolent chaque péché, c'est-à-dire qui situent chaque péché au moment précis et dans le lieu précis où il est commis, où il est librement commis. Pour les pélagiens, si un péché est commis, si une faute est commise, cette faute n'est pas du tout conditionnée par un péché antérieur, et encore moins par un péché dit originel. Voilà. Les pélagiens ne nient pas du tout l'existence du péché, pas du tout. Ils disent simplement, si des péchés sont commis, ils sont commis librement par quelqu'un, à un moment donné, dans un lieu donné. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer le péché. Pas la peine, pour expliquer le péché, d'invoquer un péché antérieur, une série de conditionnements. Pas question, en tout cas, d'invoquer un péché originel. Voilà le point central. Tandis que Augustin, lui, il ne voit pas simplement le péché comme un acte qui a lieu à un moment donné dans la vie d'un homme, mais Augustin comprend le péché comme caractérisant de façon beaucoup plus globale la situation, la condition dans laquelle tout être humain advient au monde. L'être humain advient dans un monde qui est, qu'il le veuille ou non, marqué par le péché. Et il en est lui-même, de quelque façon, affecté dès le commencement. Pour Augustin, il y a une sorte de perversion, il y a une sorte de corruption qui se trouve en quelque sorte à la racine, voilà, qui se loge à la racine même de notre connaissance, à la racine même de notre liberté. Quelque chose qui est tellement originel que c'est présent chez l'enfant alors même que l'enfant n'a pas encore la liberté d'agir. Voilà. Comme dit Augustin dans les Confessions, j'ai vu un enfant bouillant de colère. Voilà. Pourtant, c'est un enfant qui n'avait pas encore l'âge de raison. Il était bouillant de colère. Alors Augustin dit, comment vous expliquez cela? Vous ne pouvez pas expliquer ça par sa liberté, puisqu'il n'est pas encore libre. Et cependant, il était bouillant de rage et de colère, je l'ai vu. C'est dans le livre 2, je crois, des Confessions. Voilà. Je dis ça à titre préliminaire. C'est un peu radical, si vous voulez, mais je crois que ça aide à comprendre, au fond, le point essentiel du clivage entre Augustin et Pélage. Pour Augustin, en quelque sorte, il y a une perversion qui fait tellement corps avec nous que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, nous purifier. Nous ne pouvons pas, quelle que soit notre bonne volonté, nous ne pouvons pas y arriver. Il y en a un seul qui peut. Il y a un seul, une seule personne qui peut nous délivrer de cela, c'est le Christ. Voilà. Si vous voulez. Oui. Saint Jean, chapitre 9. Oui, oui. Ni lui, ni ses. Oui. Oui, oui, mais sauf que justement, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, le Christ refuse que la maladie ou que la cécité de cet aveugle-né soit imputée à un péché de cet homme ou de ses parents. Ah oui, dans la suite du chapitre 9, oui. Mmh. Oui. Ah ben c'est-à-dire, on verra que la question n'est pas simple. Hein. Augustin n'est pas sans fondement solide dans l'Écriture, justement. Ça, on verra tout à fait. Hein. Alors, je crois que pour le moment, donc, on va essayer de préciser la position d'Augustin. Je voulais, si vous voulez, à titre préliminaire, mettre l'accent sur ce qui me semble être le point nodal, enfin le point absolument crucial du conflit entre les deux. Alors maintenant, on va essayer de voir plus précisément en quoi consiste la position d'Augustin. Pour la comprendre, il faut distinguer en fait deux thèmes. D'abord, la réflexion d'Augustin sur le péché des origines. Qu'est-ce qui s'est passé aux origines? Le péché d'Adam, si on veut. Et puis, dans un deuxième temps, alors il faudra voir ce que Augustin pense sur le péché en tout être humain, le péché originel en tout être humain. Je crois qu'il est important de distinguer ces deux points de vue, même s'il y a évidemment des liens entre l'un et l'autre. Alors, premier temps, donc, le péché des origines. Bon, vous savez que pour Augustin, comme pour tous les anciens, Adam avait réellement existé. Enfin, bien sûr, il y a eu un homme nommé Adam, à un moment de. Enfin, les anciens n'avaient pas du tout la perception que nous avons de l'origine de l'humanité. Je n'entre pas dans cette question-là. L'important, c'est de voir comment il comprend, au fond, le récit de la Genèse à propos de la chute d'Adam et Ève. Alors, le péché des origines, comment Augustin le comprend-il? Il l'interprète fondamentalement comme le péché de l'orgueil. Vous voyez, j'en suis pas encore à la question de savoir comment ça se fait que tout être humain à sa naissance soit affecté par un mal qui vient d'ailleurs. J'en suis à la manière dont Augustin interprète le péché des origines tel que la Bible le rapporte au début de la Genèse. Eh bien, ce péché, Augustin l'interprète comme étant fondamentalement le péché de l'orgueil. Et pour dire cela, Augustin s'appuie de façon très littérale d'ailleurs sur ce qui est dit au chapitre 3 de la Genèse. Que dit le serpent à Ève? Il lui dit, pas du tout, hein, si tu manges de cet arbre, il ne t'arrivera rien. Au contraire, vous serez comme des dieux. Voilà, ça c'est l'appât. Hein. Vous serez comme des dieux. Et donc, Ève va manger du fruit de l'arbre. Voilà. Autrement dit, le ressort de la faute, d'après ce récit de la Genèse, tel que l'interprète Augustin, c'est la volonté d'être comme des dieux. Alors vous me direz, c'est la divinisation, quoi de meilleur? Puisque la divinisation, c'est la vocation de l'être humain, d'après les pères grecs. Toute la différence, c'est que dans le cas de la Genèse, ça se présente comme une tentation. Les pères grecs disent, la divinisation, c'est la vocation, c'est votre vocation, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Mais le problème dans la Genèse, c'est que ce devenir comme des dieux est présenté comme quelque chose qui est à la portée de l'être humain. Le tentateur, justement, joue là-dessus pour inciter Ève à prendre du fruit défendu. Voilà. Autrement dit, là je résume l'interprétation d'Augustin, là où les êtres humains devraient ou auraient dû normalement, là où Ève et Adam auraient dû normalement recevoir de Dieu la communion à la vie divine, ils ont voulu atteindre et se procurer par eux-mêmes cette divinisation. Ils ont voulu être par eux-mêmes comme des dieux. Et c'est en cela qu'ils ont péché par orgueil. Alors, il vaut la peine d'entendre Augustin parler. Et donc, je lis le premier texte sur ce péché des origines. En maintes occasions, l'âme, comme oublieuse d'elle-même, agit sous l'empire de la concupiscence. Elle voit intérieurement la beauté de certaines choses dans la nature souveraine en Dieu. Alors qu'elle devrait demeurer dans la jouissance de ses biens, elle prétend se les attribuer à elle-même. Refusant de devenir semblable à Dieu par Dieu, mais voulant par elle-même être ce qu'est Dieu, elle se détourne de lui, elle se laisse entraîner, glisser du moins au moins, alors qu'elle croit aller du mieux au mieux. C'est qu'elle ne se suffit plus, que rien ne lui suffit, une fois qu'elle s'est éloignée de celui qui seul lui suffit. Donc Augustin nous dit que le ressort finalement de la faute, le ressort du péché, c'est cet orgueil. Et Augustin dit cela sur la base d'une lecture de Genèse 3, mais là-dessus, sur ce fondement, il comprend que le péché de l'être humain consiste d'une façon ou d'une autre à reproduire ce péché des origines, péché d'orgueil. Le texte suivant montre de façon encore plus explicite ce qu'est l'interprétation augustinienne de Genèse 3. Ainsi, dit Augustin, l'homme ne serait pas tombé au pouvoir du diable en ce péché évident et manifeste, où il fit ce que Dieu avait défendu de faire, s'il n'avait déjà commencé à se complaire en lui-même. D'où l'attrait de cette parole, « Vous serez comme des dieux ». Il l'aurait bien mieux été, en restant attaché par obéissance au véritable et souverain principe, au lieu de se faire par orgueil leur propre principe. Car les dieux créés ne sont pas vraiment dieux par eux-mêmes, mais en participation du vrai Dieu. Mais celui-là trouve moins d'être en cherchant plus, qui, en choisissant de se suffire à soi-même, déchoit de celui qui vraiment lui suffit. Voilà. Le péché fondamental, c'est celui-là. C'est vouloir être par soi-même comme des dieux. Ce fut le péché d'Adam et Ève. C'est le péché fondamental de tout être humain qui reproduit ce péché d'Adam et Ève. Alors j'ajoute que Augustin ne s'en tient pas là. Il ne se contente pas de caractériser ce qu'est l'essence du péché, de ce péché dont il faut justement être sauvé. Augustin ne se contente pas de faire cela, mais il montre comment ce péché d'orgueil ne régit pas simplement la vie des individus, mais régit la vie du monde, la vie de l'humanité. Et Augustin développe ce thème dans sa grande œuvre, La Cité de Dieu. C'est le fameux thème des deux cités, la cité de Dieu qui s'oppose à la cité du diable. Je cite, « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. L'une donc la cité terrestre, se glorifie en elle-même, l'autre, la cité céleste, se glorifie dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue est dominée par la passion de dominer, l'autre dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une en ses maîtres aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu, je t'aimerai, Seigneur, toi ma force. Aussi, dans l'une, les sages vivant selon l'homme ont recherché les biens du corps ou de l'âme ou des deux, et ceux qui ont pu connaître Dieu ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais se sont égarés dans leur vain raisonnement et dans leur cœur insensé. Et leur cœur insensé s'est obscurci, donc citation de l'Épître aux Romains. S'étant flattés d'être sages, c'est-à-dire s'exaltant dans leur sagesse sous l'empire de l'orgueil, ils sont devenus fous. Ils ont substitué à la gloire du Dieu incorruptible des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des serpents, car à l'adoration de tes idoles, ils ont conduit les peuples et les y ont suivis, et ils ont décerné le culte et le service à la créature plutôt qu'au Créateur qui est béni dans les siècles. Dans l'autre contraire, dans la cité de Dieu, il n'y a qu'une sagesse, la piété qui rend au vrai Dieu le culte qui lui est dû et qui attend pour récompense en la société des saints, hommes et anges, que Dieu soit tout en tous. Voilà. Donc, pour Augustin, il y a vraiment une racine du péché. Cette racine, c'est l'orgueil. Je fais quelques remarques à ce sujet. Bon, la première remarque, c'est que, paradoxalement, le péché, tel que le comprend ainsi Augustin, révèle en creux l'aspiration de l'être humain à devenir Dieu. Puisque le péché apparaît comme une perversion. Une perversion qui se greffe sur quelque chose qui en soi est légitime. Le désir de devenir Dieu. Mais la perversion, c'est qu'on veut obtenir par soi-même d'être comme des dieux. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est une parenthèse, si vous voulez, c'est un excursus. On peut observer, à la suite du philosophe Paul Ricoeur, que l'analyse augustinienne du péché originel a en quelque sorte permis à Augustin d'insister sur l'infini de la vocation humaine. Je voudrais vous lire au moins quelques lignes de Paul Ricoeur à propos de ce qu'il appelle le surgissement de la subjectivité. Il montre comment l'analyse augustinienne du péché originel dévoile une conscience nouvelle, à l'époque patristique, une conscience nouvelle de la subjectivité, du surgissement de la subjectivité. Ricoeur dit ceci, « Une révolution s'est donc produite qui a inversé la relation entre l'infini et le fini. Désormais, à la métaphysique de l'action finie succède la métaphysique du désir de Dieu. Voilà. Ce tournant peut être reconnu chez saint Augustin, pour qui la volonté, la voluntas, se révèle dans sa grandeur terrible, dans l'expérience du mal et du péché. La liberté a le pouvoir de nier l'être, de décliner et de défaillir, de se détourner de Dieu, de se tourner vers la créature. Ce pouvoir redoutable, ce pouvoir péché, est la marque de l'infini sur la liberté. Peut-être n'y a-t-il eu volonté et liberté dans la philosophie occidentale, qu'après que la pensée eut été confrontée avec ce qu'Augustin appelle le mode défectif de la volonté. Ce serait une première manière d'expliquer, à contrario, l'absence du concept de liberté et même de volonté chez Aristote, s'il est vrai que cette absence est celle de la subjectivité et que la subjectivité moderne commence avec la méditation augustinienne sur le pouvoir de défection de la volonté libre. Bon, le texte est un peu difficile, mais si vous voulez, je résume la pointe de la réflexion de Ricoeur, c'est que, paradoxalement, cette perversion du rapport de l'homme à Dieu, telle qu'elle apparaît dans le récit de la chute, au chapitre 3 de la Genèse, cela révèle en creux la force, la puissance de la subjectivité de l'être humain, qui peut justement nier ou prétendre nier ce rapport de la créature à son créateur. Ricoeur enregistre le tournant que cela représente par rapport à toute la philosophie antérieure. Mais je n'insiste pas davantage là-dessus, c'était une parenthèse si vous voulez. Retenons pour l'essentiel cette affirmation par Augustin, ce qui est au cœur du péché d'Adam, du péché des origines, c'est l'orgueil, la volonté de devenir par soi-même comme des dieux. Le résultat l'effet de cet orgueil, c'est que l'être humain devient un être, comme dit Augustin, un être retombé sur lui-même, retombé sur lui-même. Alors, Augustin développe cela de façon extrêmement intéressante. Je lis le texte, l'extrait du traité sur la Trinité de saint Augustin. Augustin écrit ceci, c'est le texte suivant. « Le véritable honneur de l'homme, c'est d'être l'image et la ressemblance de Dieu. Image qui ne se conserve qu'en allant vers celui par qui elle est imprimée. » L'homme a été créé à l'image de Dieu. « D'où il suit qu'on est d'autant plus uni à Dieu qu'on aime moins ce qu'on a en propre. Mais le désir de faire l'essai de son propre pouvoir fait retomber en quelque sorte volontairement l'homme sur lui-même comme sur un degré intermédiaire. Aussi, quand il prétend être comme Dieu, c'est-à-dire quand il prétend n'avoir personne au-dessus de lui, sa punition est de tomber de ce milieu qui est lui-même dans ce qu'il y a de plus bas, dans ce qui fait le bonheur des bêtes. Voilà comment, alors que son honneur est d'être image de Dieu, son déshonneur est d'être image de la bête. Voilà. Le péché originel, c'est ça pour Augustin. L'être humain a voulu par lui-même être comme Dieu. Il a voulu par lui-même monter le plus haut possible. Résultat, il est tombé le plus bas. Il est retombé sur lui-même. Bon, au XVIIe siècle, Pascal s'en souviendra. L'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur est que quiconque veut faire l'ange fait la bête. Transposition par Pascal de ce thème augustinien. Je voudrais lire aussi le texte suivant qui est très beau, c'est dans un sermon. Vous allez voir, il y a une reprise de la parabole du fils prodigue, mais toujours autour du même thème, l'être humain retombé sur lui-même. En s'aimant lui-même, l'homme reste-t-il en lui-même? Parce que c'est ça le péché d'Adam et Ève, c'est que finalement ils se sont aimés eux-mêmes, ils ont voulu par eux-mêes atteindre la divinité. Donc en s'aimant lui-même, l'homme reste-t-il en lui-même? L'âme qui se sépare de Dieu commence par s'aimer, mais elle est bientôt poussée loin d'elle-même dans l'amour des choses extérieures. Aussi l'apôtre, après avoir dit « il y aura des hommes amateurs d'eux-mêmes », ajoute aussitôt « des hommes qui aimeront l'argent ». Tu as commencé à t'aimer. Reste en toi-même si tu le peux. Pourquoi te répandre dehors? Tu as commencé à aimer ce qui est hors de toi. Tu as trouvé ta perte. Lorsque l'amour de l'homme sort de lui-même pour se répandre sur les choses extérieures, il se dissipe au milieu de toutes ses vanités et consume ses forces dans une prodigalité insensée. Il s'épuise, il se répand, il est réduit à l'indigence, il se voit forcé de paître les pourceaux, comme le fils dans la fameuse parabole. Mais qu'est-ce que le Sauveur dit de cet enfant qui avait dissipé tout son bien, étant rentré en lui-même, etc. S'il rentre en lui, c'est donc qu'il en était sorti. Oui, il était tombé de lui-même, sorti de lui-même. Il retourne donc d'abord en lui-même pour revenir à Dieu, d'où il est tombé sur lui-même. En tombant de lui-même, il y était resté, mais en rentrant en lui-même, il ne doit point y rester pour n'en point sortir de nouveau. Voilà. Augustin jongle avec cette image, sortir de soi-même, rentrer en soi-même. Mais l'idée de fond, c'est toujours cette idée. Que, voilà, le péché originel fondamental, c'est le péché de l'orgueil. Et ce péché fondamental de l'orgueil a pour effet que l'homme, qui a voulu par lui-même être comme Dieu, retombe paradoxalement sur lui-même. Voilà, il retombe paradoxalement sur lui-même. Il sort de lui-même, mais en sortant de lui-même, en réalité, il est pris au piège. Et il se trouve finalement en compagnie des pourceaux ou des bêtes, pour reprendre cette image. Voilà. Alors, l'un des effets de ce péché originel, c'est la convoitise. Donc, le péché fondamental, c'est l'orgueil. Mais ce péché fondamental de l'orgueil se traduit, en quelque sorte, concrètement, par une triple convoitise aux yeux d'Augustin. Cette triple convoitise, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, pour Augustin. La concupiscence de la chair, comme il dit, donc la convoitise de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. La volonté, en quelque sorte, n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle se trouve séduite par des biens qui vont la détourner de Dieu. Voilà donc comment Augustin comprend le péché originel. Alors j'en viens maintenant au deuxième point, le péché originel en tout homme. Parce que c'est une chose de parler du péché d'Adam, d'essayer de comprendre en quoi consiste fondamentalement ce péché des origines. Mais comment Augustin comprend-il alors le péché originel en nous, c'est-à-dire le péché originel tel qu'il se trouve en nous, en quelque sorte, antérieurement à l'exercice de notre liberté. C'est sur ce point, évidemment, qu'Augustin s'oppose diamétralement à Pélage. Parce que pour Pélage, il n'y a pas de péché originel antérieurement à notre liberté. Pour Augustin, il y a un péché originel en nous, antérieurement à notre liberté. Alors, la thèse d'Augustin, premièrement, c'est que il n'y a pas de différence entre l'état d'Adam une fois qu'il est tombé et l'état de l'être humain qui naît aujourd'hui. C'est un peu dur à entendre, hein, je reconnais hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Augustin. Enfin, je suis obligé de le dire un peu quand même aussi, hein. Mais bon. Puisque le baptême pour la rémission des péchés, ça veut quand même dire quelque chose. Il y a bien quelque part un péché. En tout cas, Augustin, lui, il le dit sans aucune nuance. Il n'y a pas de différence entre l'état d'Adam une fois qu'il a chuté, d'Adam et Ève ou d'Ève et avant. D'Adam, on ne va pas jouer à savoir qui est plus responsable que l'autre. Parce que c'est vrai que c'est Ève qui a pris la pomme ou le fruit, quel qu'il soit. Mais inversement, c'est Ève qui dénonce. C'est Adam qui dénonce Ève. Hein. Ben, c'est elle, la première. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc, finalement, 50%, 50%, on va dire comme ça. Bon. Donc, le péché originel, pas de différence entre l'état d'Adam une fois qu'il a chuté et l'état de l'être humain tel qu'il naît aujourd'hui. Augustin tient cette première thèse. Deuxième thèse qu'Augustin tient et par laquelle il s'oppose alors, radicalement à Pélage, c'est que, justement, la grâce du Christ n'est pas simplement un exemple à imiter, mais que la grâce du Christ, elle est de l'ordre d'un secours intérieur. La grâce du Christ, elle est ce qui seul peut nous délivrer de ce péché originel. La grâce du Christ seul peut nous délivrer de ce péché originel. Vous voyez, je disais tout à l'heure, hein, pour Pélage, la grâce du Christ, c'est seulement un exemple. Essayons d'imiter par nous-mêmes le plus possible, le mieux possible, le Christ, puisque le Christ est parfait. Augustin dit, même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas imiter par nous-mêmes le Christ. Nous avons besoin d'abord que le Christ nous délivre du péché originel, nous avons besoin du baptême pour la rémission des péchés. Et Augustin va très loin, puisqu'il va jusqu'à écrire « Pélage est l'ennemi de la croix du Christ ». L'ennemi de la croix du Christ. Le raisonnement d'Augustin, c'est de dire « Mais le Christ, il est mort pour nous, pécheurs, pour que nous ayons la vie ». Donc le Christ est beaucoup plus qu'un exemple à imiter. Nous avons absolument besoin de ce don du Christ vécu jusqu'à la mort pour nous. Sans ça, nous ne pouvons pas être libérés du péché originel. Au fond, l'argument fondamental d'Augustin pourrait se résumer ainsi. Il y a un péché originel en nous, il y a un péché originel en tout être humain, y compris dans le petit enfant à sa naissance. Il y a un péché originel tout simplement parce que le Christ est le sauveur de tous. Voilà. Puisqu'il nous est dit par l'Écriture que le Christ est le sauveur de tous les hommes, bien, il faut comprendre que tous les hommes ont besoin d'être sauvés par le Christ. Le raisonnement semble simple, hein, aussi simple que celui de Pélage. Je voudrais vous lire un texte d'Augustin, c'est la page 4, en haut de la page 4. Augustin essaye d'argumenter avec beaucoup de vigueur, comme vous allez voir, il essaye d'argumenter à partir de l'Ancien Testament. Parce que Pélage s'appuyait sur l'Ancien Testament en disant, on voit bien, dans l'Ancien Testament, il y a des justes. Ces justes, ils ne connaissaient pas la Christ, ils ne connaissaient pas encore le Christ, puisqu'ils vivaient dans l'ancien, à l'époque de l'Ancien Testament. Et cependant, ils étaient des justes. Donc, c'est possible d'atteindre la justice par soi-même, même si on ne connaît pas le Christ. Augustin répond, il y avait des justes, d'après l'Ancien Testament. Regardons de plus près, je lis. Notre auteur, Pélage, il évoque ensuite ceux dont l'histoire rapporte que non seulement ils n'ont pas péché, mais qu'ils ont même vécu dans la justice. Donc Augustin cite Pélage. Hein. Abel, Énoch, Melchisédek, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Jésus, Josué, hein. Phinéas, Samuel, Nathan, Élie, Élisée, Michée, Daniel, Ananias, Azarias, Misaël, Ézéchiel, Mardoché, Siméon, Joseph, auquel était fiancée la Vierge Marie, Jean. Pélage ajoute également des femmes. Il y avait aussi des femmes hein, qui pouvaient par elles-mêmes atteindre la justice. Pourtant, elles ne connaissaient pas le Christ. Donc ça prouve bien que j'ai raison, moi, Pélage. Des femmes, Anne, Déborah, la mère de Samuel, Judith, Esther, une seconde Anne, fille de Phanuel, Élisabeth, et la mère elle-même de notre Seigneur et Sauveur, que, dit-il, la piété nous oblige à reconnaître sans péché. Tiens, Pélage, défenseur de l'Immaculée Conception, avant la lettre. Bon, je n'entre pas dans cette question pour le moment. Sauf que Augustin se rend compte qu'il y a un petit problème pour la Vierge Marie. Comment on va faire ? Parce que lui, Augustin, il veut dire que tous ont péché. Même Esther, même Melchisédek, etc. Tous. Mais alors, la Vierge Marie, ah, petit problème là. Bon, acceptons la Sainte Vierge Marie, au sujet de laquelle, par égard pour l'honneur du Seigneur, je veux qu'il ne soit aucunement question quand il s'agit de péché. On en parlera un autre jour. On attendra le 19e siècle. Pour, enfin, un peu avant. Enfin bon. Car d'où connaissons-nous le surcroît de grâce qui lui a été attribué pour qu'elle puisse vaincre en tout point le péché, elle qui a mérité de concevoir et d'enfanter celui qui manifestement n'a eu aucun péché. Et Augustin est gêné aux entournures, hein, parce qu'il se rend compte que là, c'est quand même difficile de dire que tous ont péché si on pense à la Vierge Marie. Mais il s'en tire en disant, bon, je ne veux pas trop parler de la Vierge Marie, ça me gêne pour le moment, dans mon raisonnement. Hein. Donc, continue-t-il, la Vierge Marie acceptée. Bon, il ne résout pas la question, Augustin. Alors, c'est intéressant, parce que certains plus tard s'appuieront sur Augustin pour dire qu'on ne doit pas reconnaître l'Immaculée Conception de Marie, puisque même Augustin a dit que justement tous ont péché. Mais enfin, Augustin ne veut pas trop s'engager sur cette affaire et il dit donc, quoi qu'il en soit, la Vierge Marie acceptée, si nous avions pu réunir tous ces saints qui ont été énumérés par Pélage et toutes ces saintes lorsqu'ils vivaient ici-bas, et si nous avions pu leur demander s'ils étaient sans péché, quelle aurait été, croyons-nous, leur réponse ? Est-ce ce que soutient Pélage ou ce que dit l'apôtre Jean ? Je vous le demande. Quelle qu'ait été l'excellence de leur sainteté en cette vie, s'ils avaient pu être interrogés sur ce point, ne se seraient-ils pas écriés d'une seule voix ? Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons et la vérité n'est pas en nous. Donc, vous voyez, saint Augustin s'appuie sur la première épître de Jean pour dire, voilà, tous ont péché, même ceux que Pélage présente comme justes dans l'Ancien Testament, même donc des gens qui ne connaissaient pas le Christ, puisqu'ils avaient vécu avant le Christ, même des gens qui sont présentés comme justes dans l'Ancien Testament, tous, ils ont péché. Et donc, nous avons besoin du Christ, et seul le Christ peut nous délivrer du péché. Le péché est vraiment présent partout. Il est présent en tout homme. Alors, je vous laisse sur cette note dramatique. Ça m'ennuie un peu parce que pendant 15 jours, ça va vous tourmenter. J'espère. Non, ce qu'il faut quand même percevoir au passage, c'est que Augustin pense le péché originel à la lumière du Christ qui nous en sauve. C'est quand même la bonne nouvelle qui est à entendre à travers l'argumentation d'Augustin. Le péché est perçu à la lumière du Christ qui nous en sauve. Cela dit, le prix à payer est quand même cher. Le prix à payer, c'est que tous sont enfermés dans le péché. Cela dit, saint Paul disait ça au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Alors, nous verrons la prochaine fois, j'apporterai quelques compléments pour terminer la présentation de la conception augustinienne du péché. Mais je montrerai aussi, et je vous laisse sur cette nouvelle meilleure, si vous voulez, je vous montrerai que les formulations les plus extrêmes d'Augustin ont suscité des remous en Provence, en Afrique du Nord, et que Augustin n'a pas eu sur ce point le dernier mot. Je baisse la voix parce que je vois Isabelle Bauchet qui est en train de passer dans la cour, une grande spécialiste d'Augustin, mais Augustin n'a pas eu le dernier mot sur cette question, et que les débats vont reprendre, et que l'un des enjeux du débat, c'est notamment qu'en est-il du salut des autres, de ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la connaissance du Christ. Voilà. Alors nous essaierons de voir dans 15 jours comment justement la controverse a repris à la fin de la vie d'Augustin, de son vivant même, et surtout après sa mort, comment on a essayé de concilier l'affirmation paulinienne de l'universalité du péché avec l'idée également affirmée par Paul.